Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le lancement ce samedi à Paris du Forum de l'Islam de France. Il deviendra un nouvel interlocuteur des pouvoirs publics. Nous y reviendrons avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Emmanuel Macron a annoncé le doublement des fonds destinés à soutenir les écoles chrétiennes au Moyen-Orient. Le chef de l'État qui a reçu mercredi des défenseurs des chrétiens d'Orient, dont le directeur de l'œuvre d'Orient, Mgr Pascal Golnisch. Les Nations Unies demandent aux talibans de fournir des informations concernant l'arrestation supposée de deux militantes féministes en Afghanistan. L'invité de rencontre jeudi sur Radio Orient est Teslim Meherzi, vice-président du parti tunisien Afek Tounes, ancien maire de la Marsa. Il a notamment évoqué la situation des Tunisiens de France, extrait dans votre journal. La journée internationale de la fraternité humaine, gros plan sur une rencontre islamo-chrétienne, dimanche prochain. Elle est organisée par le mouvement Ensemble avec Marie à l'église Saint-Sulpice à Paris. Nous écouterons Abdelkader Oukrid, membre du comité de pilotage d'Ensemble avec Marie. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations est désormais connue. L'Égypte jouera face au Sénégal. Les Pharaons l'ont emporté au tir au but 3-1 face au Cameroun. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin s'est déroulée ce vendredi après-midi. Une cérémonie dans un contexte particulier avec des boycotts diplomatiques. Ce sera ce samedi au Conseil économique, social et environnemental à Paris. L'exécutif lancera le Forum de l'Islam de France. Des imams, des penseurs, des responsables associatifs repérés ces derniers mois par les préfets dans chaque département formeront cette instance de dialogue avec les pouvoirs publics. Ils vont examiner 4 thèmes de travail, la professionnalisation des imams, l'organisation des aumôneries, la sécurité des lieux de culte ou encore l'application de la loi contre le séparatisme. Sur cette initiative de l'exécutif, entretien avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou.
Il s'agit de consulter des acteurs sur le terrain, notamment des jeunes, qui sont également des acteurs associatifs. Donc, il y a une réflexion qui est menée sur les aumôniers, sur le statut de l'imam, etc. Donc, c'est plutôt une concertation, une consultation, une réflexion sur le futur de l'institution qui pourrait être représentative du culte musulman. Cette réflexion d'ailleurs est appelé à se poursuivre au niveau des départements, donc c'est plutôt un mouvement amorcé par l'État dans le sens de préparer l'alternative au CFCM, qui est une institution, je dirais, périmée, qui n'a pas joué son rôle.
Et le fait que ce soit des imams, des penseurs, des responsables associatifs qui ont été repérés ces derniers mois par les préfets dans chaque département, ces personnes qui formeront cette instance de dialogue, c'est un élément qui vous satisfait ?
Toute démarche reste par essence imparfaite, tellement la situation de l'islam en France, notamment le culte musulman, est une situation très complexe. Il y a beaucoup d'enjeux. Voilà, donc c'est une tentative pour pouvoir remédier à cette insuffisance. Il faut mobiliser le maximum possible de personnes. Tous les acteurs n'ont pas été conviés à cette consultation. Je ne sais pas les critères qui ont été ceux du bureau de culte, mais en tout cas, bon, j'attends de voir le résultat.
Vous estimez que vous auriez dû être convié en tant qu'acteur de terrain, en tant que grand imam de Bordeaux ?
Pas forcément, parce qu'on est représenté par des acteurs de la région, donc qui sont dans notre fédération. Donc je ne suis pas obligé d'être dans cette instance. Moi, mes travaux, je les fais, etc., que tout le monde connaît. Donc ma présence personnelle n'est pas importante. L'essentiel, c'est que les idées circulent, que les idées que je développe soient présentes dans cette réflexion, tout simplement. Peu importe la présence physique ou pas.
Donc vous entendez contribuer à cette réflexion ?
Je suis un acteur comme beaucoup d'autres. L'islam de France est une réalité multiple et donc il se construit dans la réalité. L'État est laissé d'organiser tout cela. Donc nous sommes dans une démarche en devenir. Donc effectivement, bon, je ne suis pas exclu totalement de cette réflexion puisque je garde quand même une relation avec les autorités publiques d'une manière ou d'une autre. Donc peu importe d'être présent physiquement ou pas. L'essentiel, c'est qu'on va dans le sens du dénouement, de sortir vraiment de cet islam qui a cette allégeance aux pays étrangers et devrait, pour un islam véritablement, un islam de France qui part d'acteurs qui n'ont pas de lien politique ou même religieux avec les pays d'origine. C'est déjà un pas très important. J'ai toujours défendu cette idée de l'émancipation de l'islam, notamment la représentativité du culte musulman de l'ingérence étrangère.
Oui, la fin de l'islam consulaire, c'était une priorité pour vous.
C'est très important. Je pense que le gouvernement actuellement, il a entrepris la bonne démarche de rompre avec la représentativité par nationalité. C'est préjudiciable et pour la République et pour l'islam de France.
Davantage de femmes également doivent être présentes au sein de ce forum.
Oui, effectivement, ce sont des actrices très présentes. C'est vrai, elles sont discrètes, mais elles sont très présentes. Il faut leur donner une certaine visibilité. Ma fille, ma propre fille, fait partie du FORIF, donc étant elle-même une actrice sur le terrain, elle participe à la réflexion. Ce sont des choses qui vont dans le sens que je défends, c'est-à-dire la présence de la femme musulmane dans les instances représentatives de l'islam.
Vous évoquiez le Conseil français du culte musulman, son bilan. Est-ce que vous pouvez nous faire part de ce qui n'a pas fonctionné selon vous?
Ce qui n'a pas fonctionné, c'est l'essentiel qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire le corpus doctrinal. Parce que c'est très bien d'organiser les structures, la technique de la représentativité du culte, mais tant qu'on n'a pas un corpus doctrinal commun sur lequel on peut organiser cette institution, je pense que il y aurait toujours de l'insuffisance. Sur quelle base on va désigner les aumôniers, quelle formation des imams, quel est le programme pédagogique de la formation. Et malheureusement, l'État ne peut pas entrer dans le contenu théologique. C'est aux musulmans eux-mêmes de faire ce travail-là. Jusqu'à présent, ce travail n'a pas été achevé. Moi-même, avec d'autres, nous avons entrepris une démarche une refondation de tout le corpus doctrinal, théologique et canonique pour un islam de France. Il faut le penser, l'islam également, au niveau théologique et doctrinal. C'est la base même de la pratique musulmane en France, donc il faut penser ce côté-là. Donc ce côté-là, pour l'instant, l'État ne peut pas l'entamer parce que le politique ne s'immisce pas dans le théologique, comme le théologique ne doit pas s'immiscer dans le politique. Et donc ce travail-là, malheureusement, l'État ne peut pas l'encadrer, ne peut pas l'organiser. Et il incombe à l'initiative des docteurs de la loi musulmane comment penser les limites de l'orthopraxie, la visibilité de l'islam dans l'espace laïque. Ce travail-là doit être mené vraiment. Et c'est une urgence. Je pense que on ne s'attaque pas au contenu théologique et canonique. Il s'intéresse plutôt au statut de l'imam, de l'homologue. Voilà, c'est plus une approche technique, organisationnelle, que véritablement une réflexion théologique et doctrinale.
Oui, il s'agira de travailler sur l'organisation et le fonctionnement des aumôneries, hein, pénitentiaires, militaires et hospitalières, le recrutement des imams, leur professionnalisation aussi.
C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant tant qu'on n'a pas vraiment un corpus doctrinal sur la base de laquelle on pourrait former des aumôniers militaires. Qu'est-ce que c'est qu'un aumônier militaire? Qu'est-ce que c'est que la violence en islam, le djihad appliqué à la défense de la nation? Donc on a besoin de corpus doctrinal adapté à la fonction de l'aumônier. L'aumônier dans les prisons n'a pas la même fonction que l'aumônier dans le domaine de la défense de la nation. L'aumônier militaire n'est pas forcément l'aumônier hospitalier, donc il faut une formation spécifique à chaque fonction religieuse. L'imam référence, l'imam liturgie, tout cela, c'est la tâche aveugle qui manque à cette entreprise. Et là, l'État étant laïque ne peut pas entrer dans le contenu de cette formation-là. Ce qui intéresse l'État, c'est le côté juridique, c'est le côté, au moins, il peut s'occuper de la formation laïque des imams, c'est-à-dire le droit, les sciences humaines, etc., mais il ne peut pas entrer dans le droit canonique, dans la théologie, dans l'éthique musulmane. Ça, c'est l'affaire des docteurs de la loi, des penseurs musulmans qui produisent de la littérature religieuse.
Le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Emmanuel Macron a annoncé le doublement des fonds destinés à soutenir les écoles chrétiennes au Moyen-Orient. Le chef de l'État qui a reçu mercredi des défenseurs des chrétiens d'Orient, dont le directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Pascal Gollnisch. Le chef de l'État lui a remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. La France, l'Union européenne et les États-Unis ont demandé que justice soit rendue dans l'affaire de l'assassinat de l'intellectuel Lokman Slim, cet opposant au Hezbollah tué il y a un an au Liban Sud. L'ambassadrice de France au Liban, Anne Griot, a ainsi affirmé au cours d'une cérémonie organisée à la mémoire de Lokman Slim que la France continuera d'honorer sa mémoire et de soutenir son action et celle de tous ceux qui se battent contre l'impunité, pour la justice, pour la paix et pour la liberté au Liban. Les Nations Unies demandent aux talibans de fournir des informations concernant l'arrestation supposée de deux militantes féministes en Afghanistan. Ces arrestations interviennent deux semaines après la disparition de deux autres militantes, quelques jours après leur participation à une manifestation à Kaboul en faveur des droits des femmes. Les Nations Unies répètent leur appel à relâcher toutes les militantes féministes disparues ainsi que leurs proches. Le chômage en hausse en 2021 au Maroc. Le nombre de chômeurs a augmenté de 79 000 personnes, passant de 1 429 000 à 1 508 000 chômeurs, une augmentation de 5,5% selon les données du Haut Commissariat au Plan. La Tunisie vient d'être élue officiellement membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la période 2022-2024, une annonce du ministère tunisien des Affaires étrangères. L'invité de rencontre jeudi sur Radio Orient était Slim Meherzi, vice-président du parti tunisien Afektounes, ancien maire de la Marsa. Il a notamment évoqué la situation des Tunisiens de France. Extrait.
On est à peu près 750 000 Tunisiens en France. Les Tunisiens ont ramené, ont envoyé à peu près 1300 millions d'euros jusqu'à fin 2021. Vous imaginez le chiffre, c'est-à-dire c'est plus que ce qu'ont rapporté les touristes étrangers qui sont toujours les bienvenus chez nous. Grâce à cette diaspora, c'est grâce à elle que l'État arrive en fait à préserver un certain niveau de ses avoirs en devise. Mais la véritable question, qu'est-ce que nous en tant que Tunisiens, qui habitant en Tunisie, que ce soit gouvernement ou non, qu'est-ce qu'on donne à nos concitoyens? Vous savez que je vais vous donner une estimation qui me semble moins injuste. Tunisair, qui est une compagnie donc nationale, le billet d'avion durant les périodes de vacances est autour de 500 euros. Il y a une famille de 4 personnes, ils ne peuvent pas rentrer en Tunisie. Et ça, c'est injuste, alors qu'ils donnent beaucoup à la Tunisie. Et nous, on considère qu'on doit, un, être à leur disposition, c'est des Tunisiens. Deux, il faut qu'on améliore la qualité de notre service consulaire pour qu'ils se sentent véritablement Tunisiens. Et quand ils vont au consulat, ils sont reçus comme des rois, tout simplement.
Slim Meherzi, vice-président du parti tunisien Afektounes, invité de rencontre, une émission que vous pouvez écouter sur radioorient.com, émission présentée par Loïc Barrière. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations est désormais connue. L'Égypte jouera face au Sénégal. Les Pharaons l'ont emporté au tir au but, 3-1 hier face au Cameroun. L'entraîneur adjoint de l'Égypte a demandé à décaler à lundi la finale contre le Sénégal, prévue dimanche. Une demande liée au fait que les joueurs sénégalais bénéficient d'un jour de récupération supplémentaire. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin s'est déroulée ce vendredi après-midi. Cérémonie marquée par l'absence de représentants des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Australie qui boycottent diplomatiquement ces Jeux en raison des atteintes aux droits de l'homme en Chine. Les Jeux d'hiver se déroulent jusqu'au 20 février prochain. La journée internationale de la fraternité humaine. Ce vendredi, dans ce cadre, une rencontre islamo-chrétienne a lieu ce dimanche. Elle est organisée par le mouvement Ensemble avec Marie, une initiative d'Ephésia, une association catholique qui a pour fondement la culture de la rencontre entre chrétiens et musulmans. Le thème de cette rencontre, de 14h30 à 18h30 à l'église Saint-Sulpice à Paris. Au début de tout, la confiance. Je vous propose d'écouter Abdelkader Oukrid, membre du comité de pilotage d'Ensemble avec Marie.
C'est une rencontre autour de la figure de Marie pour célébrer notre attachement au dialogue entre chrétiens et musulmans et à la fraternité commune. Et le thème, c'est au départ de tout, la confiance. Et plus précisément, au début de tout, la confiance, c'est pour dire que le dialogue est basé sur un principe d'échange commun dans l'estime et dans le respect mutuel des uns et des autres. Et lorsque la confiance est le point de départ et le point d'ancrage de nos relations, eh bien, beaucoup de choses deviennent possibles et nous pouvons construire un avenir de fraternité commune. Et comme c'est le 6 février, justement, c'est concomitant avec la journée internationale de la fraternité humaine
qui a lieu ce vendredi,
demandée par le pape et adoptée par l'Organisation des Nations Unies. Et donc, nous pouvons joindre les deux événements, la question de la confiance et la question de la fraternité.
Et c'est une rencontre islamo-chrétienne, cette rencontre de dimanche prochain. Est-ce que vous pouvez nous faire part de l'état des lieux, selon votre regard, du dialogue islamo-chrétien aujourd'hui en France ?
Depuis qu'on constate qu'il y a des crispations dans le monde et également des crispations dans notre pays, nous constatons qu'il y a également un regain du dialogue interreligieux et aussi un regain du rapprochement entre chrétiens et musulmans. Il y a une demande, une attente et aussi un désir de la part de nos concitoyens que l'on puisse ouvrir des chemins de fraternité et qu'on puisse éclairer d'une lumière nouvelle ce champ d'espérance les uns pour les autres. Il y a une attente, il y a une demande, et nous essayons, avec toute la personne de bonne volonté, de nourrir ce chemin et de faire quelques propositions, notamment celle-ci du dimanche 6 février, et avec le concours de nombreuses associations partenaires, le concours de personnes engagées depuis longtemps dans le dialogue, et maintenant nous pouvons le faire à l'église Saint-Sulpice, qui est l'une des plus importantes de Paris et qui, depuis quelque temps, remplace la cathédrale Notre-Dame depuis l'incendie. Et donc, c'est une joie, déjà, pour nous, de le faire en ce lieu illustre.
Abdelkader Oukrid, membre du comité de pilotage d'Ensemble avec Marie. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Fatima Ogbi, conseillère régionale d'Île-de-France, maire adjointe à Grigny, membre du Parti Socialiste, émission présentée par Loïc Barrière. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient.